Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, il est midi et 4. Vous écoutez 88.3, c'est fac. Et c'est l'heure de Ludo Radio. Chers auditeurs, Alexandre Bélanger à la barre. Ce midi, de retour après un mois sans avoir animé Ludo Radio, je peux-tu vous dire que j'avais hâte? Je suis entouré, comme d'habitude, de mes trois complices habituels. Nathan Saint-Pierre, salut Nathan.
Salut Al, ça va?
Ça va bien. Alexandre Racine, comment ça va?
Ça va super, merci à toi.
Puis Hugo Parent, comment ça va Hugo?
Ah, en forme, prêt après la belle semaine de relâche.
Ben oui, tout le monde a ses batteries rechargées pour donner un petit coup.
Ouais. Oui.
Correct.
Donc, comme d'habitude, on va vous parler pendant une heure de culture geek, de jeux de société, de jeux de rôle, de plein d'affaires comme ça. Et bien, on va commencer tout de suite avec nos impressions d'un film qu'on attendait beaucoup, Dune 2. On est 3 sur 4 à l'avoir vu. On va essayer de ne pas faire trop de spoilers pour Nathan. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez pensé du film Les Boys.
Ben, je peux y aller. Personnellement, ça irait dans la catégorie de films que je catégoriserais de beau, pas nécessairement du plus intéressant au niveau de l'intrigue. Personnellement, j'ai pas énormément accroché sur l'intrigue, mais le film était tellement visuellement beau que c'était pas très important, l'intrigue.
Quelque chose comme Avatar. Maintenant.
Ouais, exactement.
Ben, as-tu vu, moi, l'intrigue, c'est... Dune, c'est reconnu pour avoir un message qui est « Faites attention à votre messie parce que vous pourriez l'avoir. Mm-hmm. Faites attention à vos prophéties parce qu'elles pourraient se réaliser. » Fait que ce bout-là, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Comment Paul, qui sait ce qui s'en vient, qui veut pas, mais qui se ramasse pogné dans ça, avec concours de circonstances. Puis quand il embrasse sa destinée, ben là, c'est... Puis en même temps, ben, c'est le Hero's Journey classique aussi.
Oui, oui, ben ça, tu sais, il y a une intrigue, là. Il faut le spécifier, là. Ça suit quand même de quoi d'assez complexe, là. Ça reste le principe de Dune.
Je suis d'accord avec toi. Visuellement extraordinaire. Et à un budget de 200 millions qui est une pitance.
Oui, c'est
oui,
une
contrairement aux autres films de Marvel et Disney, c'est assez raisonnable, là.
Ouais, je pense que... Ouais.
Sinon, pour le film, j'ai trouvé que, on va pas se le cacher, là, c'est quand même long comme film.
Oui.
C'est juste qu'il était après aussi long que le premier. C'est juste qu'il n'y a pas de moment mort tant que ça. Il y a de l'action, du mystère, des effets importants. Il n'y a pas de « c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ok, ils vont jaser pendant 15 minutes. »
Il n'y a pas de gras. Non. Il y a juste des protéines dans le film.
Ce qui fait que le premier a été vraiment bien fait pour moi, qui était qu'ils ont réussi à tout setter en place sans que ce soit... trop emmerdant comme film, pour que le deuxième puisse être du non-stop.
Parce qu'on se rappelle du film des années 80 où il y a littéralement de l'exposition.
Ouais, ouais, j'ai entendu mon père m'en parler souvent parce que je l'ai pas vu au complet. Je l'ai vu par bribes étant plus jeune parce que bien... il a été fait trop tôt le premier film qui est sorti et...
Bref, un film infilmable qui a été réalisé de main de maître par... moi, je trouve un très grand réalisateur québécois. Là, probablement le meilleur qu'on aura jamais, d'ailleurs. Fait que c'est ça pour Dune. On
peut être positif avec le meilleur so far.
Oui. Et on va commencer cette semaine. Moi, je vais vous parler de mes petits jeux sur le radar. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Puis en même temps, je vais en profiter pour faire un tour de table après ça pour vous demander à quoi vous avez joué. Mais je commence par mes petits jeux sur radar. Je vais faire ça vite. Alors, vous connaissez tous le jeu au feu. On en a parlé il y a quelques mois. Il y a un Legacy.
Oh. Un Kickstarter Legacy, oui. J'ai vu ça passer, moi aussi.
En effet, qui a été annoncé hier. Puis la grosse contribution, c'est le jeu Legacy. Des scénarios supplémentaires, plus le jeu de base, plus toutes les extensions du jeu de base. Vous allez sortir quasiment 500$ de vos poches, fait que si vous aimez au feu, c'est le temps. Le jeu de base, sinon, est quand même relativement raisonnable pour la grosseur de la boîte. Mais ce que j'aime, c'est qu'habituellement, un Legacy, c'est one stop and done. Tu joues, puis après ça, ben...
Le jeu a été modifié, qui peut même pas être rejoué, ou l'histoire est scrappée.
Mais là, il y a des modules. Il y a des histoires supplémentaires disponibles dans le Kickstarter et j'imagine probablement retail après. Fait que ben, c'est sûr que c'est un Kickstarter, fait qu'on paye tout ça, on va l'avoir dans un an et demi.
Oui. Mais considérant que ceux qui aiment beaucoup Au Feu savent que les extensions ne sont plus produites depuis un certain nombre d'années, c'est un bon moment pour les ravoir.
Tout à fait. Si vous n'avez pas eu l'occasion de Kickstarter le Au Feu original pour avoir tous ces add-ons, c'est le moment d'aller les chercher. Puis c'est même pas si tard que ça. Je pense qu'il disait janvier ou février 2025 pour la
livraison. C'est un an. Presque un an. Voilà. Puis on s'entend, là, j'en connais pas de Kickstarter qui ont livré à l'heure. J'en connais pas.
Effectivement, c'est plus l'exception que la norme.
Effectivement. Je regarde présentement Wormspan, qu'on a très hâte d'acheter, qui est précommandé pour le club, qui a été spoté dans la nature dans plusieurs conventions. Il y a des gens qui en ont, il y a des tutos en ligne. Je vous conseille d'aller. Si c'est un jeu qui vous intéresse, vous pouvez y aller. Puis il sort dans quelques semaines. J'ai Évacuation qui est sur mon radar aussi, qui est un jeu de votre planète et Scrap. Vous devez évacuer un maximum de votre population. Okay. Qui est de l'air très intéressant, qui a deux modes, un mode par point puis un mode par course aussi. J'ai respoté... voyons... bon, là j'ai un blanc, puis mes notes sont pas à jour. Genre, je vais revenir. Il y a une resurgence de Dune Imperium dans le Hotness de BGG.
Est-ce que quelqu'un
aussi
est surpris en vrai?
Ben non, hein.
Avec le film qui est sorti, je peux comprendre.
C'est de la bonne. C'est
de la bonne pub.
En plus que Uprising est sorti, somme toute récemment.
Ben oui, mais c'est pas Uprising qui monte, c'est Dune de base. Mais je pense qu'ils ont vendu beaucoup plus de Dune Imperium que de Uprising pour des raisons de pendant la pandémie. T'sais. Le monde s'achetait beaucoup plus de. On s'entend, les ventes de board games sont très stagnantes présentement, pour pas dire en baisse. Ça fait partie de la trend de l'industrie. Puis, il y a beaucoup, 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 beaucoup de produits disponibles.
Ouais.
Puis, dernière nouvelle, Ravensburger, cet deuxième empire monopolistique du mal qui fait des jeux depuis très, très, très longtemps, on s'entend. Scotland Yard, tous ces trucs-là, là, c'était avant la trend des jeux euro. On fait un autre cash grab. Ils ont fait un cash grab avec Castles of Burgundy l'année passée. Des beaux jeux, des super beaux jeux, mais qui coûtent une fortune. Et là, ils refont la même chose avec Puerto Rico Special Edition.
J'aurais un jeu aussi à présenter sur mon radar que moi, j'ai vu que tu n'as pas présenté, qui est un jeu de rôle. Vu que je suis la personne qui en parle un petit peu plus, je ne sais pas si tu me laisses le présenter, Al.
Oui,
parfait, ça s'appelle Our Brilliant Ruin, qui est un jeu steampunk avec... un Star Stream, genre, qui descendrait sur Terre et qui mange le métal, qui est sur Kickstarter en ce moment. J'ai vu, en fait, c'est que le créateur du jeu a participé avec une des chaînes que je joue pour création de personnages et un gameplay qui a l'air très, très, très intéressant. Le créateur principal étant celui qui a fait The World of Darkness chez White Wolf.
C'est pas n'importe qui, donc.
Et la chef rédactrice... Et la personne qui a fait Dune Adventure in the Imperium qu'on a présenté il y a deux semaines, donc
ça a une
team solide qui ont préparé, et le jeu a l'air vraiment bien, donc sur Kickstarter en ce moment.
Si m'ont donné la chance d'aller voir mon jeu que j'avais mal noté, c'est Voidfall qui vient d'annoncer une nouvelle expansion. Voidfall, c'est un 4X dans le fond. Gros jeu de conquête, super long, qui fait pas sur une table, qui prend une journée à jouer.
Dans ton genre de jeu.
Ouais, ben, on est des nerds, on se le cachera pas. Puis, ben c'est ça. Fait que ça me donne juste plus le goût de l'acheter, moi, t'as dit cette affaire. Fait que c'était ça pour notre petite chronique du radar. Vite, vite, Nathan, à quoi t'as joué cette semaine?
Cette semaine, j'ai joué à Dune Imperium Uprising avec les deux extensions.
Et tu nous as sacré...
Presque
sacré une volée. Mais ouais. Laurent nous en a sacré une pire.
Ouais, c'est ça. Il est revenu de l'arrière à la fin. Là. On était serrés, moi puis Laurent, depuis le début de la partie. Fait que c'était une question de qui allait faire le dernier move pour gagner à la fin, là...
Alex, en 30 secondes, à quoi tu as joué
ça? Moi, j'ai joué à Great Western Trail, puis Eon's End, Past and Future. Puis j'ai aussi eu la chance de regarder puis de lire les règles pour le nouveau Evolution avec les monstres fantastiques.
Cool.
Qui est sorti en Kickstarter récemment.
Hugo? Cool.
Moi, j'ai essayé les nouveaux jeux que le club a achetés. Alors, Distilled et Charlatan de Belcastle. Et avec mes amis sur le côté, j'ai fait un peu de Arkham et de Au Feu, justement, on en parlait.
Excellent. Ben moi, c'est comme d'habitude, Gloomhaven, Frosthaven, J'ai joué à Clan Catacombs et j'ai joué à... je me suis fait sacrer une volée d'une Imperium Uprising avec les deux expansions. Parce qu'on ne savait pas où se pitcher. Je suis pas convaincu qu'Uprising avec deux expansions, c'est un...
Non, il est compliqué. Il faut vraiment que tu te concentres sur ce que tu vas, puis il faut que tu restes sur ce chemin-là toute la partie, sinon oublie ça.
Puis ça rend les conflits pas gagnables. Puis à Dune Imperium, Uprising, les conflits sont très importants. Sont plus importants que dans le jeu de base.
Ouais.
Fait que c'est ça pour notre chronique de Radar. On va aller faire une petite pause, puis en revenant, Hugo va nous faire sa chronique du garage. De retour en ondes à Ludo Radio. Avant la pause, on a jasé de notre radar et de nos impressions sur Dune 2 de Denis Villeneuve. Et on est rendu à cette portion de l'émission où Hugo va nous présenter des règles, un principe de règles de jeu.
Et oui, aujourd'hui, je vous présente la mécanique de ownership. Ou possession, là, j'ai pas vraiment trouvé cette semaine un bon terme français pour ça.
Un terme redondant quand même.
Ouais. C'est pas ce qui possède la boîte du jeu auquel vous jouez, là, le principe d'ownership. Mais ça y ressemble un peu. C'est qui possède les bâtiments, les endroits où vous allez. Donc, dans les jeux qui ont cette mécanique-là, les joueurs auront au fil de la partie la possibilité d'acheter ou de construire ou d'aller acquérir d'une manière ou d'une autre des bâtiments, des lieux où les autres joueurs peuvent par la suite se rendre. C'est généralement optionnel si les joueurs vont sur ton bâtiment ou pas, bien que parfois c'est au hasard et si tu tombes dessus, ben tu tombes dessus. Le jeu par défaut d'ownership, là, je dirais le classique des classiques, Monopoly. C'est vraiment la définition même de t'achètes des bâtiments. Et si les joueurs vont sur tes bâtiments, ils doivent te payer.
Effectivement, pas mal la seule mécanique de Monopoly avec le hasard.
Exactement. Mais ce n'est pas le seul jeu qui a pris ce concept-là. Il y a d'autres jeux qui l'ont repris par la suite et à mon avis, je dirais assez bien. Au lieu d'être au hasard, si tu t'en vas sur le bâtiment des autres, c'est au choix. Donc, lorsque tu fais une partie, tu as l'option, une option supplémentaire d'y aller pour obtenir un bonus, généralement meilleur que les bonus de base, mais qui donne aussi un petit bonus au joueur qui l'a construit ou qui le possède. Ce genre de jeu-là, entre autres, le jeu de cette semaine, Great Western Trail, mais il y a aussi, par exemple, Everdell, Lords of Waterdeep ou Le Havre.
Ouais, Lords of Waterdeep, c'est, je te dirais, une des mécaniques les plus importantes du jeu pour ouvrir le jeu, pour permettre...
Absolument. Généralement, dans ces circonstances-là, ça peut être un bon endroit où aller, mais que ça va donner souvent des points de victoire ou des ressources au joueur qui s'en va dans le bâtiment que tu as construit. Ma question pour vous, gang, c'est à quel point est-ce que vous appréciez ou est-ce que vous êtes hésitant? C'est quoi votre stratégie quand ça vient le temps de « Est-ce que je m'en vais dans le bâtiment créé par quelqu'un d'autre? » Parce qu'aller dans ton propre bâtiment, la vie est simple. Genre, c'est à toi, tu obtiens soit ton propre bonus ou soit tu n'as rien de négatif puis c'est généralement un meilleur endroit que les autres. Mais si c'est les bâtiments de quelqu'un d'autre, c'est quoi votre stratégie pour approcher ça?
Ben, je peux commencer, en fait. C'est que moi, dans l'idée, si je vais dans le bâtiment de quelqu'un d'autre, c'est que les bénéfices à y aller sont plus importants que le fait d'aider ou de donner d'un bénéfice à la personne chez qui je vais. Par exemple, j'ai besoin de ressources spécifiques qui sont disponibles dans son bâtiment, mais ces ressources-là vont me permettre d'accomplir une quête ou de faire un objectif que j'ai besoin de terminer. Mais là, c'est pas grave, je vais y aller. Mais si je suis capable d'aller chercher ces ressources-là ailleurs, je vais prioriser l'autre endroit avant.
Okay. Vas-y.
Moi, je rajouterais en nuance que dans la plupart des jeux comme ça, à moins que vous jouiez à deux, nuire à quelqu'un n'est habituellement pas recommandé par rapport à s'aider soi-même. Donc, si tu vas retirer un bénéfice, ça va te sauver une action. Même si ça va aider un peu une personne, à moins que tu es sûr et certain que c'est cette personne-là qui est dans le lead et tu veux absolument pas que c'est elle qui gagne, c'est probablement mieux d'y aller. Moi, je considère que généralement, c'est mieux.
Ah ben, avec l'économie d'action, j'ai tendance à être d'accord avec Alex. Les c'est rare que tu vas aller dire. Mais tu sais, moi, je vais commencer à parler d'un concept souvent qui est le joueur idéal. Le joueur idéal, il n'y a pas d'ego. Il n'est pas en maudit après celui qui gagne ou il prend des décisions qui sont totalement rationnelles pour lui. Puis dans le mindset du joueur idéal, ben généralement, si il retire plus de bénéfices que la personne qui va aider, normalement, ça va de soi d'aller utiliser le truc.
Mais vois-tu, moi, je suis un peu personnellement, je suis la logique d'Alex qui est de dire... Ben, si on est deux personnes, surtout à quatre par exemple, qui est assez standard, si on est deux à obtenir des bonus, parce que moi qui y va et le joueur à qui ça appartient, tant que le joueur à qui ça appartient n'est pas le joueur qui est prévu de gagner, je me dis, ça fait juste aider deux autres joueurs, puis ça nous donne tous les deux de l'avance sur le joueur qui est premier.
Pour faire attention, dans ce type de jeu-là, si la mécanique d'achat n'est pas la seule, puis qu'un joueur qui a fait un... grosse priorisation sur ça, il pourrait avoir un avantage indu. Où là, ben oui, les autres joueurs vont avoir tendance à pas vouloir y aller parce que ben il y a 10 bâtisses, mais il y en a 7 à lui. Fait que.
Ben, ce qui fait en sorte que la personne qui a mis ses bâtisses peut juste aller chez lui sans aider personne et avoir les bénéfices de ses bâtisses à lui totalement. Oui,
absolument. Absolument. Souvent, plusieurs jeux jouent avec la mécanique que si c'est ton bâtiment, tu reçois pas le bénéfice secondaire ou t'as pas le bénéfice complet. Ou t'as pas droit de tout simplement utiliser les bâtiments des autres. Il y a plusieurs variations sur le terme quand même.
Oui, quand même.
Puis il y a souvent un investissement initial à faire aussi. Ça, c'est l'autre partie. Est-ce que je le fais, cette bâtisse-là? Est-ce que j'ai les
ressources?
Est-ce
que je perds l'action? Est-ce que je perds les ressources pour faire ça?
Est-ce que ça retarde d'autres actions qui pourraient être utilisées en levier plus tard pour... Fait que tu sais, c'est quand même...
C'est un pensée si bien.
Donc, à mon avis, c'était une petite mécanique assez simple, mais que je trouvais assez intéressante de voir. Ben, y a des jeux dans lesquels il est possible d'acheter des bâtiments puis d'avoir des bonus pour que inciter les autres. Par exemple, à Everdell, entre autres, qui est quand même assez intéressant là, pour donner des bons bonus, mais des points de victoire. Là.
Il va falloir que je rejoue une coupe de fois Everdell.
Ce jeu semble plus riche qu'on pourrait voir.
Oui. Ouais. Puis j'ai plein d'expansions à maison que j'ai eu pas cher. Puis je sais pas si je vais garder ou pas encore.
Mm-hmm. À suivre. Peut-être qu'on va les retrouver ici.
Ben oui. Ça fait aussi un super beau segue pour notre présentation du jeu de cette semaine. Allez, cette semaine, Alexandre va nous présenter The Great Western Trail.
Et oui, en ces grandes terres de l'Ouest américain, on commence en étant un groupe de cow-boys, de gestionnaires de troupeaux plutôt, qui veulent aller faire du profit avec leurs vaches. Le but tout simple est de vendre des vaches dans des pays, dans des villes où c'est plus difficile de les avoir pour faire de l'argent et des points. Maintenant, quand on regarde le plateau, on pourrait se demander « Mais qu'est-ce qui se passe avec cette game de Monopoly complètement déraillée? » Et ce serait une vision assez accurate, assez précise, puisqu'effectivement, il y a une traque avec un chemin à suivre pour se rendre à la case « Go », si on veut, la case qui permet de retourner au début de la trail puis de recommencer et faire des points. Mais les tuiles sont vides. Il n'y a pas de lieu. Donc, dans Monopoly, d'habitude, si vous avancez de trois cases... Vous avancez de trois cases collées, puis vous êtes rendu à la quatrième case. On est d'accord? Ici, si vous avancez de trois cases, puis il n'y a rien sur les deux premières, vous les skippez complètement, puis la troisième devient un. Donc, au début du jeu, on va avancer très très vite sur un terrain vide, avec juste des bâtiments neutres que tout le monde peut utiliser. Ces bâtiments neutres-là peuvent vous permettre d'acquérir des nouvelles vaches, acquérir des nouveaux employés qui peuvent être utiles pour vos différentes fonctions, pour faire des points, et peuvent aussi être utilisés pour modifier votre main. Parce qu'en même temps, le jeu est aussi un deck builder. C'est surprenant comme mélange, mais ça fonctionne plutôt bien.
C'est d'ailleurs un classique Great Western Trail, je pense qu'il est en position...
Quelque chose comme 17.
Ouais. Ah, il est descendu.
15 ou 17. Ouais, il est très, très bien placé. Avec une cote de 8.2, on voit qu'il est assez aimé. La deuxième édition se voit un 8.4 pour des raisons que j'ignore, mais... très apprécié comme jeu et une complexité à ne pas sous-estimer. Ce n'est pas votre jeu de Monopoly habituel. Il y a 3,75 de difficulté sur 5.
Ouf, ouais, c'est quand même.
C'est rough.
C'est un euro pesant.
Tout à fait.
Dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu es un cowboy, tu as des vaches, Ouais. Faut que tu aies vendu tes vaches.
C'est bien ça. Mais les vaches qu'on va vendre, en fait, on pige 5 vaches de notre deck de vaches. Puis, on peut utiliser ces vaches-là pour faire différentes actions dans les bâtiments neutres. Certains bâtiments vont demander de jeter une vache quelconque, puis à la fin de votre tour, vous en repigez une autre. Certains bâtiments vont demander d'en jeter des spécifiques pour avoir des bonus. On peut aussi ignorer de faire ces actions-là si on décide que notre main est bonne. Mais arrivant à la case de Kansas City, la ville ferroviaire, je m'en ai dit portuaire, mais ferroviaire.
Ferroviaire, oui.
Oui, où on va pouvoir envoyer nos vaches se faire vendre dans des villes où elles vont valoir plus cher. Parce que plus on les vend loin, l'offre et la demande, là, mm-hmm. plus on le vend loin de l'offre, plus on fait d'argent. C'est une mécanique assez logique, puis appliquée dans plusieurs
jeux. J'imagine que l'argent ici, c'est des points.
D'une certaine manière, oui. Mais on fait aussi de l'argent.
Oh, OK.
On fait des points, effectivement, des points de victoire qui vont être importants à la fin, mais on fait de l'argent. Puis l'argent elle-même va être utile pour acheter des vaches qui valent des points, puis éventuellement faire plus de points, vendre à des villes plus loin et répéter la roue jusqu'à éventuellement être le meilleur cowboy.
Fait qu'on parle d'un deck builder, on parle d'une main de base puis d'un market, j'imagine?
Oui, le market est ouvert. On le voit, tout le monde y a accès simplement. Mais le market n'est pas rempli au fur et à mesure. Pour le remplir, il faut sacrifier certaines de ses ressources ou se rendre à un certain point dans la partie. Donc, éventuellement, si personne sacrifie de ses ressources, il pourrait rester juste la vache qui coûte 12 piastres au fond du market, puis personne qui a ça 12 piastres au début du jeu. Donc, malheureusement, rien à faire.
Donc, quand on vend nos vaches, on obtient de l'argent.
Et quand on vend nos vaches différentes, on obtient de l'argent.
Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent-là?
Avec cet argent-là, on peut acheter des nouvelles vaches, on peut faire certaines actions de bâtiments spécifiques et on peut recruter des gens, qui est une action de bâtiment spécifique, qui vont vous permettre de, si c'est un cowboy, acheter plus de vaches, si c'est un ingénieur de train, avoir des actions de train plus efficaces. Le train est une mécanique secondaire dont je n'ai pas encore parlé vraiment. Et si c'est des constructeurs, pouvoir construire vos bâtiments, puisque évidemment, il y a de l'ownership. Et ce qui permet de faire l'autre action spécifique de bâtiment, construire d'autres bâtiments.
Fait que là, on voit, on commence à avoir la complexité où c'est pas comme je vends des vaches, j'ai de l'argent, je bâtis des buildings, puis il y a comme un intermédiaire, il y a un setup à faire pour bâtir. Fait que là, ça demande un petit peu plus de.
Puis en plus de l'argent pour construire les bâtiments, chaque bâtiment a un nombre de bâtisseurs dessus. Puis pour construire le bâtiment, il faut avoir ce nombre-là de bâtisseurs au moins. Donc, ce qui peut rendre les bâtiments super intéressants, que vous vous dites, ah, ben j'ai l'argent en masse, je vais construire le gros bâtiment qui vaut 10 points de victoire à la fin. Ah, mais ça prend 5 constructeurs. J'ai pas 5 constructeurs.
Et je présume que ces trois petits bonhommes-là avec des métiers, ils ont pas nécessairement sont pas nécessairement disponibles tout le temps non plus. Là.
Pour les obtenir, il faut aller sur la case bâtiment neutre, recruter des personnes que vous pouvez faire. Et certains bâtiments personnels que vous pouvez construire peuvent aussi avoir des recrutements. Bien particulier ce jeu-là. Tout le monde a les mêmes bâtiments qu'ils peuvent construire, mais c'est pas les mêmes d'une game à l'autre parce que chaque tuile a deux côtés. Puis on s'assure que tout le monde soit sur le même côté de chaque tuile. Mais ça ne veut pas dire que la prochaine game, on ne sera pas de l'autre côté.
Est-ce que si un bâtiment existe déjà, on peut faire le même bâtiment ailleurs?
Notre bâtiment peut être une réplique d'un bâtiment de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème à ça. Mais il y a un avantage intéressant par rapport à ce que j'ai dit tantôt. 5 bâtisseurs, c'est le maximum qu'on peut avoir. Mais il y a un bâtiment qui demande 9 bâtisseurs. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, un bâtiment qui est déjà construit peut servir de fondation à un autre bâtiment. Donc, si vous avez un bâtiment à 5... que vous voulez construire un bâtiment en neuf, ça vous prend juste 4 constructeurs pour faire la différence.
Okay.
Donc, il y a moyen de construire ces gros bâtiments-là, mais ça va vous prendre beaucoup de tours. Puis les tours sont contre vous à ce jeu-là.
Okay. Donc, c'est un jeu qui accélère.
Non seulement qui accélère, je dirais même pas qu'il accélère, il va juste vite, tout le temps.
Okay.
Je vais vous expliquer plus de détails après la pause qui est arrivée trop vite pour mes explications.
Ben, il reste encore un couple de secondes. Tu as le temps de squeezer?
Oh, je pense qu'il n'y a pas de temps de squeezer. On va squeezer ça après.
On va aller aux nouvelles et au sport, puis aux nouvelles, puis on vous revient avec la suite et la fin de Great Western Trail. De retour en ondes à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire avec 4 geeks qui jasent de jeux de société, de jeux de rôle et de culture geek. Cette semaine, on vient d'avoir un petit accident en studio. Cette semaine, Alexandre nous présente The Great Western Trail, la première édition qu'on a au club, mais il y a une deuxième édition aussi.
Oui, comme je disais tout à l'heure, la deuxième édition se mérite une légèrement meilleure note sur BGG. J'ai cru comprendre qu'elle comprend déjà l'extension, entre autres choses.
Et il y a aussi deux autres spin-offs qui est The Great Western Trail Argentina et le troisième...
New Zealand, il me semble.
Oui, le troisième, c'est New Zealand.
Donc, voilà pour ça. Tout à l'heure, on parlait de la fin de la partie qui arrive vite. Eh bien, chaque fois que quelqu'un va livrer ses vaches, chaque fois que quelqu'un va aller à Kansas City, la ville où on peut livrer, il va faire ses points de victoire, vendre ses vaches, changer sa main. Mais il va aussi rajouter deux jetons, deux personnages dans la trail de fin de partie. Et c'est les personnages qu'on peut acheter. Donc, c'est les ingénieurs, les constructeurs et les cowboys.
Dans le fond, c'est un personnage qui n'a pas été acheté, qui se ramasse.
Non, c'est ceux qui sont achetables qui, vont, qui sont là. Donc, pour le rendre achetable, il faut le mettre là.
Donc, plus on achète, plus on allonge la partie.
De ce qu'on m'a dit des règles, de ce que j'ai compris en le lisant, acheter ne fait que acheter. On peut qu'on... Le jeton de fin de partie ne recule jamais. Okay. Il ne fait qu'avancer.
Il fait qu'avancer. Ouais, mais pour expliquer, dans le fond, c'est que c'est une traque d'une certaine largeur.
Qui est dans deux pour de deux joueurs, c'est trois ça. Pour trois joueurs, fait quatre
si,
pour quatre joueurs.
Puis à chaque fois qu'on va à Kansas City, on remplit où est-ce que le pion est rendu.
Oui.
Fait que si on fait descendre le pion ne peut pas remonter. Mais si on vide la rangée où le pion ne descendra pas tant que la rangée n'a pas été remplie.
Si on vide cette rangée-là spécifiquement, mais si on vide celle plus haute, il ne se passe rien. Puis les rangées n'ont pas tous le même coup. Le coup semble presque aléatoire. Des fois, il y a un cowboy à 5$ suivi par un cowboy à 10. Donc.
Surprise!
Si là, tu te dis, ah ben là, j'aimerais ça vider la rangée de 5 pour que la game dure plus longtemps.
Peut-être pas ça le va. Moment.
Mais si je me dis, je veux vider la rangée de 10 pour que la game dure plus longtemps, c'est un gros investissement, mettons. L'argent n'est pas facile à faire, surtout au début du jeu. Puis,
parce que, dans le fond, au début, on est capable d'aller 4 vaches le, différentes au maximum. Oui,
ce qui peut vous donner un maximum de 7 points si vous êtes très, très, très chanceux. Puisque dans votre main de départ, vous avez plusieurs vaches qui valent 1 point, puis 3 sortes de vaches que vous avez juste 2 fois chacune qui valent 2 points. Donc, il faut que vous ayez les 3 spécifiques une fois et une des vaches qui vaut 1 point pour faire 7, ce qui est le maximum possible. Évidemment, dans le marché, il y a des vaches à 3 points, des vaches à 4 points, puis des vaches à 5 points, qui sont de plus en plus chères et qui demandent plus de cowboys pour contenir.
Bon, ici, il y a juste toi et moi qui a joué, malheureusement. Mais qu'est-ce que tu as aimé dans ce jeu-là, Alex?
Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu-là? J'ai beaucoup aimé la partie deck builder puis possession de bâtiments. Je trouve que c'est deux mécaniques qu'on ne voit pas souvent ensemble, que c'est quelque chose qui fonctionne bien, surprenamment bien, je trouve. J'ai beaucoup aimé en général. Ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est que le jeu était un peu overwhelming pour quelqu'un qui commence.
J'avoue. Ouais.
Et vraiment trop rapide. De manière qu'on a joué, on n'a jamais ou presque acheté les tuiles dans la ligne du bas. Donc la partie s'est terminée tellement rapidement, on avait acheté un total de comme 6 vaches à 2. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre qui avait été acheté. Donc on était encore presque sur nos mains de base. Pour moi, c'est un défaut du jeu qu'il se finit trop rapidement. Si tu n'as pas l'argent pour recruter, puis si tu ne sais pas qu'il faut que tu recrutes en un moment spécifique.
Il y a une petite partie engine building aussi dans ce jeu-là. Tout c'est important fait. Dans tes premières bâtisses, que ce soit des bâtisses qui génèrent des revenus. Comme ça, tu peux justement allonger la partie. Oui.
Ce qui nous amène à une sous-mécanique de la possession de bâtiments qu'on a, j'ai mentionné brièvement tout à l'heure à Hugo. Posséder le bâtiment te donne un avantage important à ce jeu-là. Parce que si tu arrêtes sur un bâtiment de quelqu'un d'autre, tout ce que tu peux faire, c'est une de tes actions personnelles sur ta carte une fois. C'est tout. Tu peux rien faire d'autre sur le bâtiment de quelqu'un d'autre. Tandis que si c'est ton bâtiment à toi, tu peux choisir de faire une action personnelle ou tu peux choisir de faire les deux ou trois actions qui sont sur le bâtiment.
Habituellement, c'est une action secondaire, si je ne me trompe pas. Puis tu as une action principale puis deux sous-actions aussi, me
semble. Oui, généralement, une ou deux sous-actions
c'est
sur le bâtiment.
C'est un, comme un tour splitté. Oui, il y a beaucoup de complexité. Puis je te disais que même 3,75... Moi, je pense que c'est trop bas. C'est plus un jeu qui se rapproche de 3,9.
Ça se rapproche de 4, ouais.
3,9 facile, là. Ouais,
je vous
là,
écoute parler, puis je suis perdu dans le, comme, ce qui est à faire, puis que j'ai pas joué.
Ne vous en faites pas. J'ai complètement ignoré le fait que vous pouvez payer pour augmenter votre track, pour payer moins cher, pour avoir les bâtiments, ce qui vous permet d'accéder aux gares, ce qui vous permet de gagner des bonus supplémentaires. Mais pour gagner ces bonus supplémentaires-là, il faut que vous mettiez l'un de vos employés à la retraite permanente dans cette gare-là. Ce qui fait que vous avez plus l'employé, ce qui fait que vous pouvez plus recruter de vaches ou construire de bâtiments. C'est rapide à perdre.
Ouais. Oh, dire que ce jeu-là est pesant, c'est pas, une exagération.
Puis en plus, sur votre board personnel, chaque fois que vous faites une livraison dans une nouvelle ville, vous pouvez enlever une pinouche blanche ou noire, dépendamment si la ville est blanche ou noire, qui vous permet d'avoir des actions supplémentaires personnelles.
Oh, wow.
Moi, je fais souvent la
j'ai un flashback de Ark Nova après...
Ouais, mais j'ai
Terra Mystica dans la même journée.
Moi, j'ai toujours la joke de Cones of Dunshire, qui est une espèce de pun de la série Parks and Recreation, où est-ce qu'il y a un super nerd qui nous fait passer pour des gens normaux ici autour de la table, qui a inventé un jeu qui s'appelle Cones of Dunshire et qui est compliqué au point d'en être hilarant. Là. Les jeux dans la série Kaamelott aussi, là, les jeux de cartes de...
De Perceval?
Oui,
ces jeux de cartes hyper compliqués où chaque carte a comme deux actions différentes possibles, ouais, dépendamment dans l'ordre dans lequel tu as joué.
Ils expliquent trop vite. Puis, c'est souvent cette hilarité-là, moi, qui me pogne quand je rejoue à Great Western Trail.
Surtout si tu essaies d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas joué, puis tu réalises à quel point, tu te ressouviens à quel point ridicule c'est. Mais c'est un excellent jeu.
Ouais, il est beau en plus. Oui. Puis la raison pourquoi ils ont fait une deuxième édition, c'est vraiment niaiseux, là. C'est qu'il y a une mécanique qu'on n'a pas parlé parce que dans la trail, il peut y avoir des obstacles.
Les obstacles peuvent être un désert, une montagne dangereuse, une swamp ou la dernière mécanique dont Al fait mention.
Des méchants indiens.
Ah, c'est seulement dire des peaux rouges, c'est ça.
Des nations autochtones qui chargent des frais, si tu veux passer. En fait, toutes ces tuiles-là ont fonctionnellement le même effet en jeu, qui est que quand tu veux passer par-dessus, ça te bouffe un déplacement. Puis, si tu passes dessus ou tu t'arrêtes dessus, il faut que tu payes une certaine somme, dépendamment du nombre de joueurs, qui varie de 3 à 1 $ dépendamment de quel logo c'est. Ce qui peut être ennuyant, surtout quand tu as juste 7 piastres après avoir fait le tour complet de la map.
Mais après ça, tu peux utiliser l'Indien pour le placer en quelque part pour neutraliser un obstacle ou un truc comme ça.
Il y a des tuiles qui permettent d'acheter les obstacles pour faire des points de victoire, qui les enlèvent du board aussi. Il y a des tuiles qui permettent de récupérer un Indien. En plus, il y a des achievements que tu gagnes à tout bout de champ dans le jeu, que si tu réussis à compléter, tu as des points bonus, mais si tu ne réussis pas à compléter, tu perds des points. Puis en attendant d'avoir décidé si tu le faisais ou pas, il pollue ton deck.
Ah, okay.
C'est quelque chose, ce jeu-là.
Mais c'est vraiment le fun. Si vous voulez passer un bon 30 minutes à apprendre des règles, puis un autre 2 heures à jouer.
Ouais, c'est ça. 30 minutes pour lire les règles. Première partie va durer 3-4 heures facilement.
Il faut que tu regardes les règles au fur et à mesure, au cas que peut-être.
Coupe de tuto, ça l'aide aussi.
C'est bien. C'est vraiment le fun.
Oui, c'est ça. Si vous êtes un gros nerd de board game.
Genre, si Ark Nova vous a dit, me semble que c'est le fun puis léger comme jeu.
Fun, je suis d'accord. Léger, je suis en désaccord.
Ouais, c'est ça. Bien, sérieux, il fait paraître Ark Nova puis Terraforming Mars pour des petits jeux. Je me rappelle quand je l'ai pris en photo, j'ai fait un shelfie sur BGG, puis j'ai des commentaires, toujours des commentaires de notre collection, puis dans le fond, on fait ça pour ça un peu. Puis j'ai quelqu'un qui m'a dit, hey, t'as juste des jeux légers. C'est comme, dude, j'ai Great Western Trail, j'ai Terra Mystica, j'ai Gaia Project. De quoi tu parles?
À quel jeu tu joues pour trouver tous ces jeux-là légers?
Non, il y avait juste, je pense qu'il manquait parlait au travers de son chapeau. Là. Fait que c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup, Alex, pour cette présentation.
Donc, j'ai tenté de vous l'expliquer. C'est un des nouvelles acquisitions du club. Donc, si vous vous dites que des jeux complexes et riches comme ça, ça vous intéresse, venez donc nous voir ce soir. Moi, je risque d'y jouer.
Encore?
J'ai presque compris la dernière fois, puis là, je pense que je pourrais apprécier le jeu.
Ça a-tu titillé ta corde de Ark Nova puis de Terraforming Mars?
Probablement, mais ouais. J'aime quand même plus Ark Nova pour l'instant.
Bon.
Mais il n'y a rien comme une deuxième puis une troisième partie qui pourrait s'aider à ça.
En effet. Fait qu'on arrive dans le dernier 15 minutes, mais j'ai un petit 5 minutes avant la prochaine pause. Est-ce que Nathan, tu veux commencer à nous présenter ton jeu de rôle qui a plein de syllabes de voyelles dedans?
Oui, ça s'appelle Ryutama. Pour toutes les fans de JRPG, donc de jeux de rôle japonais en jeu vidéo, ceci est le jeu de rôle sur table pour vous. Quand j'ai vu les images la première fois, j'ai tout de suite pensé à Dragon Quest et Rune Factory.
Pour avoir vu récemment, j'ai vu Octopath Traveler tout de suite quand j'ai regardé les dessins.
Oui, il y a aussi très très proche de Octopath Traveler, donc inspiration très très japonaise. Je peux commencer à parler en fait un petit peu de l'univers dans lequel vous allez jouer.
T'as 3 minutes.
Bon, mais je vais commencer puis je terminerai après. Mais pour commencer, l'univers de Ryutama est la coutume est que tu partes à l'aventure à un moment dans ta vie. Qu'est-ce qui te pousse à aller à l'aventure? Le joueur choisit. Ça peut être un événement comme en Dragon Quest, c'est comme t'apprends que le gros méchant arrive puis il faut aller battre le gros méchant. Donc tu te proposes pour aller à l'aventure. Ou encore juste l'idée tu vas aller revoir ta grand-tante qui est partie à l'aventure il y a 60 ans, puis qui est 50 villages plus loin. Tu vas aller la voir, donc c'est ton aventure de 30 jusqu'à voir ta grand-tante. Et le DM possède un joueur dans l'univers qui s'appelle le Ryujin, donc le représentant des dragons, en fait. Si on veut avoir la traduction approximative, là, c'est le représentant des dragons, qui lui tient un journal sur les aventures des joueurs et doit éventuellement aller le porter au dragon qui correspond à la saison dans laquelle l'aventure se déroule. Si c'est une aventure qui se déroule en été, tu vas voir le dragon de l'été. C'est l'aventure qui nourrit le dragon et qui maintient le climat et l'environnement dans l'univers. Donc, c'est la nourriture qui permet de garder les saisons en vie. En fait, c'est le journal écrit par le Ryujin qui suit les aventures du groupe de héros.
Donc, dans cet univers-là, il faut qu'il y ait des aventuriers qui s'en aient à l'aventure.
Exactement. C'est pour ça que c'est la coutume du peuple. En fait, ils savent que il faut nourrir les dragons primordiaux, qui sont les quatre dragons été, automne, printemps et hiver. Là. C'est... Et donc, ils partent à l'aventure pour faire ça. Et le personnage du DM peut interagir avec l'aventure pour aider son groupe d'aventuriers. Parce que s'il va avoir une aventure suffisamment grande pour nourrir le dragon, faut pas que tes aventuriers périssent ou se perdent à la sortie du village.
Mais est-ce que ça veut aussi dire qu'il ne faut pas qu'ils réussissent trop facilement?
Exactement. Très exactement.
On a eu la même pensée. Hein. C'est comme, je pense à un Félix, entre autres, là, que il va t'aider, mais pas vraiment. Là.
Exactement. Donc, mais c'est parce que ça te coûte des ressources à aider les joueurs, donc tu ne peux pas trop les aider non plus quand même.
C'est dommage. Là.
Ouais, c'est dommage. Il reste une minute environ.
À peu près,
oui. Bon, mais parfait. Je vais pouvoir prendre le dernier truc qui m'intéresse vraiment, en fait, au niveau de l'univers. C'est que, en fait, la ville vers laquelle vous allez est généralement créée par le DM et les joueurs en début de partie. Donc, la destination de la ville suivante est générée en début de partie. Donc, tu n'as pas à te créer toi-même et à réfléchir à toutes les fois en tant que maître du jeu pour dire « Bon, OK, il faut que je crée la prochaine ville. Je commence à manquer d'idées. » Non, vous la créez en groupe avec une belle recette là, pour créer la ville fournie par le livre et des étapes à suivre. Donc. Mais c'est créé en groupe, donc on sait où on s'en va. Puis ce qui est important, en fait, dans ce jeu de rôle-là, ce n'est pas les combats, ce n'est pas la destination, c'est l'aventure.
Donc le « journey is more important than destination ».
Exactement.
Le voyage est plus important que la destination. On va aller faire nos petites pauses, Nathan, puis après tu nous...
Je rentre en mécanique, un petit peu plus poussé, là.
Parfait. Fait que de retour dans quelques secondes. On est de retour à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société, culture geek. Avant la pause, Nathan a commencé à nous présenter le jeu. Répète-moi ça.
Ryutama.
Ryutama.
Donc, en fait, là, je vais rentrer un petit peu plus dans ce qui est au niveau des mécaniques de jeu entourant Ryutama. J'appelle, par exemple, le système de dés slash caractéristiques, je vais l'appeler dés égale caractéristiques. Donc, il y a quatre caractéristiques dans le jeu. Force, intelligence, dextérité, puis l'esprit. Et tu lui attribues un dé. Des 4, des 6, des 8, des 10 ou des 12. Au début, il y a des règles pour comment tu contrôles, mais au maximum 12 sur une caractéristique. Et lorsqu'un jet est demandé, on va toujours demander deux caractéristiques qui peuvent être deux fois la même caractéristique. Donc, par exemple, deux fois la caractéristique de force. Et ensuite, pour pouvoir faire le jet, on prend les dés correspondants des caractéristiques. Par exemple, je vais avoir mis 6 en force et 8 en intelligence, par exemple. Eh bien, quand je vais me faire demander un jet qui demande de la force et de l'intelligence, je vais lancer un D6 et un D8. L'objectif est de battre un nombre spécifique que le maître du jeu va avoir donné.
OK. Fait que c'est un target number, dans le fond.
Oui, exactement.
Que le maître de jeu va assigner. Donc, plus c'est difficile, plus le target number est haut.
Exactement. Il y a des guides là, pour savoir comment mettre les target numbers, justement, là, que ce soit en combat ou en exploration ou un peu tout, en fait. Là, c'est que ça va dépendre.
Avec seulement 2 dés, il me semble que quelque chose comme 15, ce serait quasiment impossible déjà.
Exactement, ça, c'est très, très difficile. Là. Les trucs vraiment impossibles sont comme quelque part autour de 15. Là. 15, c'est vraiment une action qui est exceptionnelle à réussir. Ou il faut vraiment que tu sois spécialisé dans ces deux caractéristiques-là. Par exemple, on demande un jet à 15 à quelqu'un qui aurait un dé 12 en force puis que c'est deux caractéristiques de force qui sont nécessaires. Il lance quand même 2 des 12 pour obtenir 15.
Son espérance est autour de 13, donc c'est possible.
Puis l'action, c'est quoi? Garrocher un char sur quelqu'un?
En fait, ça peut être utiliser une arme. Par exemple, une épée à 2 mains, c'est 2 en force plus des points bonus, dépendamment de ce que tu as, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir réussir à toucher.
OK. Puis y a-tu des plus à ça? Y a-tu des bonus circonstanciels?
Oui, il va y avoir des bonus circonstanciels. Il va y avoir des bonus générés par la magie aussi, parce que c'est un monde dans l'univers où la magie existe. Il y a des dragons, il y a donc de la magie. C'est souvent le cas, en fait. Et il peut y avoir des bonus qui vont être attribués à l'équipement. Vous êtes dans la nature et vous voulez faire un jet pour trouver une plante, peut-être pour guérir le poison d'un de vos compagnons. Et vous avez un livre d'herbaliste avec vous qui vous permet plus facilement d'identifier les plantes. Vous allez avoir un bonus sur vos jets.
OK. Puis c'est-tu un jeu que tu as des points de vie ou tu as une condition
manuelle? Il y a points de vie, points de mana. Okay. Pour lancer les sorts et le nombre de fois que tu peux te faire taper sans mourir. Et sinon, il y a aussi des conditions sur les échecs. Donc, certains jets à échecs vont en dire comme « Bon, ben, t'es épuisé. Vous n'avez pas réussi votre jet de voyage, par exemple. Eh bien, là, votre voyage est plus long, il est plus difficile, il est plus complexe, puis vous êtes arrivé, vous êtes épuisé. » Donc, ça fait des conditions qui donnent des malus sur les jets de dés. Parce que sinon, ça serait pas... ça serait pas agréable.
Désolé. Avec ce que tu me décris, est-ce qu'il y a possibilité qu'un joueur soit garanti d'échouer sur certains jets ou c'est peu commun?
Une garantie d'échouer, genre, sans en réussite critique, par exemple. Si t'as pas de la réussite critique, tu vas échouer.
Donc, mécanique de réussite critique existe quand même.
Oui, mais en fait, il y a échec et réussite critique. La réussite critique, il y a 2 façons de l'obtenir. En obtenant 2 6 sur les dés,
Peu importe la valeur du dé.
En obtenant 2-6.
Si t'as des D4, c'est impossible.
Exactement. C'est pour ça qu'il y a l'autre méthode d'obtenir une réussite critique.
2-4?
C'est, non, la valeur maximale.
OK.
Donc, tu pognes 12 et 4, t'obtiens une réussite critique. Donc, c'est soit 2-6, soit la valeur maximale sur tes 2 dés.
OK.
Et finalement, l'échec critique qui est possible. Je vous laisse deviner c'est quoi. Je suis certain que vous êtes capable.
2-1.
Exactement. Donc, si tu obtiens 2-1, c'est un échec critique. Ce que je trouve drôle, pas drôle, mais relativement intéressant sur l'échec critique, c'est que tu obtiens ce qu'on appelle des fumble points que le DM peut utiliser pour rajouter des malus sur les... mais sont ajoutés à l'équipe. Ne sont pas ajoutés aux joueurs qui fumble. Oui, c'est un pool.
C'est une réserve d'amour du maître de jeu.
Exactement.
Pour rendre des choses intéressantes.
Exactement, parce que le maître de jeu, c'est le Ryujin, mais c'est aussi le maître de jeu qui compte l'histoire. Donc, tu sais.
C'est-tu un jeu où il va avoir des skills, des trucs comme ça?
Oui, il va avoir des skills liés au job. Un peu comme dans Final Fantasy, tu commences avec une job et tu améliores ta job, donc tu obtiens plus de compétences, plus de skills, plus de sorts, plus de...
Est-ce qu'il y a des sous-jobs, des jobs?
Oui,
est-ce qu'on peut changer de job?
Oui, tu peux être un ménestrel qui devient fermier. Fait que t'as comme les caractéristiques de ménestrel puis de fermier, fait que tu peux aller piger dans les deux quand tu augmentes.
Un peu comme du multiclassage dans D&D.
Exactement.
Puis j'imagine qu'en montant, en évoluant, pour pas dire monter de niveau, on peut modifier nos dés.
Oui, exactement. Donc, le permet de changer d'un D4 à un D6. Tu peux juste augmenter ton dé d'un niveau de dé, donc de 8 à 10 ou de 10 à 12, mais tu peux pas passer de 8 à 12.
Fait que dans le fond, tu as une opportunité une fois de devenir meilleur.
Ben, à toutes les fois que tu montes de niveau. Okay.
Mais tu pourrais partir un personnage qui, au début, est super faible avec un D4, monter niveau, aller chercher un D6, remonter niveau, aller chercher un D8.
Exactement.
Remonter niveau, aller chercher un D10.
Exactement. Mais c'est pas tous les niveaux qu'on peut augmenter nos dés. Là. C'est un peu comme dans D&D, il y a des niveaux spécifiques dans lesquels on peut. Fait que de mémoire, il y en a comme 3 ou 4 dans une aventure typiquement là, que tu vas pouvoir aller monter de tes dés.
Puis, genre de progression, c'est rapide, c'est lent, c'est...
C'est à la discrétion du DM.
Un peu comme une aventure, parfois ça va rapidement, parfois...
Exactement, là, c'est à la discrétion du DM. Si je dis, ce qu'on a fait aujourd'hui mérite le fait que vous montiez de niveau. Tu peux utiliser le système de points d'expérience sur les monstres aussi, là. Il n'y a pas vraiment d'obligation à dire t'es obligé de prendre les points d'expérience ou t'es obligé de prendre les milestones, là, pour dire, tu montes de niveau là... Où tu montes de niveau après tant d'XP. Okay. C'est au choix du DM. Là. C'est réellement là.
Y a-t-il d'autres choses que tu veux nous parler avant que je te pose la question?
Moi, en fait, ce que je veux parler, c'est du système de combat. J'en parle pas généralement parce qu'habituellement, le combat, t'es sur une carte avec une grille et tu te déplaces sur la grille et c'est le système de combat qui est majoritairement utilisé en jeu de rôle.
Qui ralentit le jeu de façon spectaculaire.
Bien, dans Ryutama, la carte de combat, c'est deux cercles. Frontline, backline. Donc, les gens au combat corps à corps en avant, les gens au combat à distance en arrière.
Je vois encore mon JRPG.
Si vous avez joué à Final Fantasy, vous comprenez. Là,
exactement. Ça ressemble un petit peu à ça. La carte est vraiment simple. C'est côté des ennemis, côté des joueurs.
On dirait un œuf qui a été cassé en deux.
Exactement. C'est l'image qu'il y a là. Et tu as la possibilité d'utiliser des objets. Donc, le maître du jeu va dire, il y a les cinq objets suivants sur la zone de combat. Et les joueurs peuvent utiliser à n'importe quel moment, mais le DM aussi, il y a sa pool d'objets qu'il peut utiliser pour les monstres, là, mais peut utiliser à n'importe quel moment un objet. Et si la description du joueur est suffisamment bien claire de comment il sert de l'objet, il va avoir des avantages, il va avoir des bonus au toucher.
OK. C'est des plus sur son dé.
Exactement.
Donc là, il va faire, dépendamment s'il frappe avec ses points, un test de force, puis un test de...
De dextérité, genre, en même temps, puis...
Donc, mettons qu'il y a une grande branche à terre, je pourrais dire, je vais me servir de la grande branche pour faire du saut à la pôle, pour passer par-dessus mon ennemi, puis l'attaquer dans le dos.
Exactement. Ça donne un bonus pour le toucher, parce que l'ennemi s'y attendait pas. aussi, la façon que ça fonctionne, lorsque les ennemis qui sont à l'avant meurent, les ennemis qui étaient à l'arrière deviennent à l'avant. C'est parce que tu avances sur tes ennemis, donc ceux qui étaient à distance vont devenir au corps à corps et... avoir des...
Probablement être dans le trouble.
Exactement. Ils vont avoir des problèmes, là, puisqu'ils sont rendus au corps à corps.
S'ils étaient derrière, c'est probablement qu'ils voulaient pas être devant.
Donc, j'aime ce système de combat relativement simple où t'as pas besoin de dessiner de cartes. Tu fais juste mettre cinq objets différents dans la rangée d'objets, puis les joueurs s'en servent quand ils en ont besoin, s'ils en ont besoin.
Sur une échelle 1 à 10, 1 étant totalement réaliste, 10 étant totalement fantastique... Tu le places où?
On est probablement autour de 8-9 dans, okay. Je dirais, là, c'est... Il y a des façons de faire un personnage avec des oreilles de lapin, là, des demi-humains, et des... Okay. Il y a des demi-humains, il y a des dragons qui se promènent
Beaucoup de magie.
Beaucoup de magie, là, la magie est pas rare.
Toutes les classes ont des magies, là.
C'est japonais, donc... Coupe de cossins absurdes, j'imagine.
Oui, ça, il y a des dragons qui sont des dragons d'environnement, c'est-à-dire que dans une montagne, il va y avoir un dragon géant qui va se promener en tout temps. Parce que c'est en fait la montagne est générée par ce dragon-là.
T'as 2 minutes pour nous dire pourquoi tu l'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas dans ce jeu-là.
Pourquoi je l'aime, étant fan de RPG japonais, je te dirais que j'ai été attiré par l'esthétique, par l'idée derrière l'aventure. Le fait que l'aventure soit pas nécessairement une série de combats qui mène au combat final, mais vraiment, tu peux passer une session complète juste à décrire une aventure en montagne, puis comme... les complications qui peuvent être rencontrées et compagnie. Donc, je trouve ça réellement, réellement agréable.
Le côté narratif qui est bien développé. Là.
Exactement, un côté narratif qui est bien développé.
Éco-narratif de ce que tu disais pour les visages.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a même les joueurs aussi qui vont participer dans la narration, beaucoup, sur ce qu'on s'en vient. Ce que j'aime un peu moins, c'est qu'il manque, je dirais qu'il manque certains trucs. C'est comme, il est bien développé, il est bien écrit, mais des fois, je fais comme... Ouais, les sorts laissent un petit peu à désirer ou comme sont trop...
Un petit manque de profondeur.
Ouais, ça, il y a un petit manque de profondeur, mais c'est réellement c'est un RPG léger. Donc, le manque de profondeur vient pas...
Ça vient avec, hein?
Ouais, c'est ça, c'est un RPG qui est léger, donc la profondeur va peut-être être un petit peu moins présente.
Tu veux de la profondeur, ça vient avec du gros crunch, puis un livre de règles épais.
Exactement, ça, c'est un livre de règles de 200 pages environ, là, fait que c'est pas super
c'est
gros.
C'est léger pour un... Tout puis j'imagine qu'il y a il y a de la mise en situation, puis du smoothie là-dedans.
Exactement, de la mise en situation, des descriptions d'actual play, là, par exemple, une démonstration pour le DM qui discute avec le joueur pour faire un jet ou des affaires de même. Là. Puis il y a de l'image. Les dessins, par contre, le visuel du livre est vraiment, vraiment beau. Je sais que j'en ai montré quelques-unes à Hugo des images. Là. Les images sont absolument vraiment belles. Là. Vraiment bien.
Une seconde pour être assis à côté.
Donc, le visuel aide beaucoup aussi là, à mettre l'idée du...
Mettre l'ambiance.
C'est une aventure légère. Là. C'est sûr que ça se peut que tu rencontres des gobelins, mais c'est pas le but de l'aventure.
Donc, Nathan, si tu veux nous rappeler le nom pour les fans de JRPG qui voudraient...
Ryutama. Je vais vous l'appeler parce qu'il y a deux U dans le nom du truc, donc il faut savoir où les placer. C'est R-Y-U-U-T-A-M-A. Donc, le début, la fin facile, c'est juste qu'il y a deux U dans le milieu.
C'est pas mal tout le temps qu'on a cette semaine. Je veux juste vous mentionner, avant qu'on s'en aille, que Alexandre Racine et Nathan Saint-Pierre vont représenter le club de jeux de rôle de Société de Sherbrooke au gala Force Avenir, c'est ça?
Oui, ouais. Force Avenir.
Force Avenir, jeudi proche, ben je vous dis que ça vient.
Demain, jour. Donc demain. Ouais.
Puis en attendant, ce soir, on a la soirée board game.
En effet, on n'est pas au 1001 cette semaine.
Non,
on est
dans
un petit local, alors n'hésitez pas à pas venir. Je dis jamais ça habituellement, mais
on va être
serré ce soir.
Hey, on a le local du club aussi.
Fait que c'est tout pour nous cette semaine. On vous revient la semaine prochaine avec plus de geekness. D'ici là, bonne semaine tout le monde.
À la semaine prochaine.
Bye.